Que faire, François Guéranger, auteur de La Revanche des juges chez l'Artilleur? Alors, juste avant que vous répondiez à la question de Damien Chalamel sur comment résoudre ces problèmes de justice, je voulais vous lire le mot d'un auditeur très sévère hein, sur l'institution judiciaire, et donc au passage sur vous. Hein, votre interlocuteur est un propagandiste de l'institution judiciaire, nous dit-il. Voilà, il faut voir comment sont traités. Alors là, moi je suis assez d'accord avec lui, hein, il faut voir comment sont traités les justiciables dans les TPE, je sais pas ce que c'est que les TPE, tribunaux, je sais pas, et les TAF, donc les tribunaux aux affaires familiales, sans doute ces juridictions qui sont au début de la chaîne, qui aboutit parfois à la prostitution d'enfants placés. C'est vrai que c'est encore une affaire qui a défrayé la chronique et qui n'a pas été dans le sens comment dire, du prestige de la justice. Voilà, il dit irresponsabilité, inamovibilité. Enfin bref, il est très sévère pour l'institution judiciaire. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Français qui pensent comme lui. Et je voulais citer aussi deux personnalités. Le premier, c'est Montesquieu, hein, qui disait qu'il voulait réduire le pouvoir des juges au minimum parce que la puissance de juger est terrible. Et le second, c'est Mitterrand. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. C'est vous hein, qui citez ces deux personnalités dans votre livre. Que faire face à ces deux contraintes, hein, finalement, celle du peuple français qui trouve que finalement, qui ne supporte plus le laxisme, et puis face au danger qui peut-être qui représente aujourd'hui pour le pouvoir politique.
Ce que j'ai voulu faire, c'est expliquer ce qu'il en est, c'est-à-dire donner le maximum d'informations sur la situation actuelle, quel est le métier du juge, comment est-il arrivé à ce niveau-là, est-ce que le juge français est le seul à être impliqué dans cette évolution? La réponse est non, évidemment, puisque la CEDH, la CJUE sont de manière très nette, partie prenante, le droit européen d'une manière générale. Et donc, une fois que tout ça est mis sur la table, j'ai distingué deux modèles de démocratie. L'un que j'ai appelé démocratie du peuple, c'est celui qui correspond à l'article 3 dont on a parlé tout à l'heure, hein, lorsque la souveraineté appartient au peuple. Et l'autre, c'est ce que j'appelle la démocratie des juges, où les juges vont donner plus qu'un avis, mais vont plus ou moins censurer les décisions du peuple. Et de manière schématique, j'ai appelé ça le premier, j'ai appelé c'est dans la démocratie du peuple, le peuple dispose, et dans la démocratie des juges, le peuple propose et le juge dispose. Je pense que ces deux images sont très parlantes. Alors, maintenant, que faire? Imaginons que tout soit vraiment sur la table et qu'on soit au courant de tout cela. Il me semble qu'en tant que démocrate, il faut demander son avis au peuple. En tout cas, c'est ce que je propose. Ce qu'on demande, l'avis au peuple, c'est par l'intermédiaire d'un référendum. Et en lui mettant à choisir, en lui donnant à choisir entre cette démocratie du peuple et cette démocratie des juges. Je propose même à la fin des modifications constitutionnelles qui seraient à faire si on choisissait l'un ou si on choisissait l'autre. Mais pour moi, il n'y a que le peuple qui puisse décider dans ces cas-là. Alors vous me direz, oui, un référendum, mais, oui, mais, effectivement, puisque depuis, il y a notamment une jurisprudence qui s'appelle Auchemaille, exactement, où le décret de convocation des électeurs pour le référendum est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc, si il y avait un référendum qui dise bon, on va limiter le pouvoir du Conseil constitutionnel de telle manière, telle manière, telle manière, on peut imaginer que le Conseil constitutionnel dise ah ben non, non,
On peut en être certain, on peut
c'est
le lire. En tous
anticonstitutionnel.
les cas, le Conseil
C'est
constitutionnel,
anticonstitutionnel.
dans sa
D'où la
formation
question.
actuelle.
Voilà. Alors,
Bon.
François Garger et Philippe Charles, je vous donne la parole juste après. On va reparler de cette question fondamentale, que faire? Mais je voulais qu'on écoute Béatrice Brugère. Vous savez, c'est la représentante d'un syndicat de magistrats. Chaque loi, chaque norme, dit-elle, donne du pouvoir aux magistrats. Donc il y a une espèce d'effet d'entraînement. On l'écoute.
J'en sais rien, mais le magistrat, en tout cas, ce qui lui permet d'agir, c'est la norme. Donc, si vous, plus vous faites de normes, et il n'arrête pas de faire de la norme, vous savez, il y a plein de rapports là-dessus, Conseil d'État, je ne vais pas revenir, je vais très rapidement, mais on est un pays qui est légiscentiste, qui n'arrête pas de faire des lois. Ouais. Comme si, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est la loi qui allait le régler. Quand vous faites des lois, vous donnez de facto, en vrai, du pouvoir aux magistrats, parce que vous leur demandez d'intervenir sur des sujets auxquels, sur lesquels pardon, ils n'avaient pas de compétences. Et ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, c'est dingue, parce que les moyens ne suivent pas. Un drame pour nous, la justice a plutôt été affaiblie par le pouvoir politique. C'est ce que je parlais tout à l'heure d'une confrontation, c'est-à-dire qu'on a eu des, on a des budgets minables, on manque de magistrats, enfin tous ceux qui...
On va en dire un mot de ça,
oui,
c'est important.
C'est pour,
hein,
c'est
un
c'est
vrai
pour répondre de... à ça, ouais. C'est-à-dire que vous dites on nous a donné beaucoup de pouvoir, en fait... On a essayé,
mais pas les moyens.
Oui, c'est ça, mais ça va avec. C'est-à-dire que...
Voilà, donc beaucoup de pouvoir, mais pas les moyens. François Guéranger, est-ce que c'est une question de moyens et inadaptée finalement à la justice, pas seulement?
Alors d'abord, pour rebondir sur la première phrase, elle a parfaitement raison. C'est un peu comme un artisan, si vous lui donnez un marteau et une scie, il ne fera pas grand-chose. Si vous lui donnez tout un tas d'outils, il fera beaucoup de choses. Donc le juge, si vous lui donnez beaucoup de lois, beaucoup de décrets, il va faire énormément de choses. Donc elle a parfaitement raison. En ce qui concerne le pouvoir, alors le pouvoir en soi, il est clair. Le pouvoir juridique, on en a déjà parlé, ça c'est tout à fait évident. Maintenant, l'appareil lui-même, l'appareil de l'institution judiciaire, n'est pas... très très bien doté. Il y a un certain nombre de points auxquels je pense sur ce plan-là qui ne sont pas des questions politiques, ce sont des questions de fonctionnement de l'institution judiciaire. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'étude d'impact. Ça, moi, ça me paraît tout à fait indispensable. D'ailleurs, ça avait été bien commencé.
Les juges prennent des décisions et puis finalement, voilà. Les Français découvrent au bout d'un moment que ça a coûté des sommes ahurissantes.
Ou ils ne le découvrent même pas, d'ailleurs.
Ils ne le découvrent pas, parfois.
Ils découvrent pas. Il y en a une autre qui est quelque chose qui est peut-être un peu pas très glamour, mais une comptabilité analytique. C'est-à-dire, combien coûte une décision ? Prendre un exemple. Il y a, semble-t-il...
Pour la collectivité, vous voulez dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a, semble-t-il, dans des commissariats, plusieurs millions de plaintes qui dorment. Et puis, périodiquement, le parquet va dans les commissariats et il classe sans suite. Il passe 10-15 secondes sur des plaintes. Donc, les plaignants sont des justiciables comme les autres, comme on dit. Bien. Mais, prenons le cas de Sarkozy. On a passé 14 ans sur son dossier, avec un nombre de magistrats, d'enquêteurs importants. Et donc, si on fait pour Sarkozy, qui est un justiciable comme un autre, on nous dit que c'est un justiciable comme un autre. Lui, on passe des milliers d'années hommes, ou de jours hommes en tout cas, pour parler en termes d'organisation, et les autres, on passe 20 secondes. Moi, il me semble qu'il faut faire une comptabilité analytique. Et puis, dans la pratique quotidienne, je vois bien qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont extrêmement anciens, 10 ans, 12 ans, des dossiers d'escroquerie ou autres, ça ne rime à rien.
Ouais,
donc, une comptabilité analytique, pour savoir combien ça coûte. Il y a...
C'est un souci d'efficacité, c'est déjà une révolution, j'imagine, de parler de ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Parce que les moyens ne sont pas extraordinaires, mais vous parliez de vie antérieure, je me suis occupé d'audit d'organisation autrefois. Et je me suis aperçu
que vous avez fait beaucoup de choses.
oui. Et je me suis aperçu que à moyens constants, c'est-à-dire à ressources constantes et à moyens humains constants, avec une meilleure organisation, on arrivait à faire beaucoup beaucoup de choses. Et donc là, il y aurait un audit d'organisation qui serait bienvenu.
Qui serait pas inutile. Philippe Charlès.
Alors, il y a un domaine dans lequel moi, en tant que citoyen, je trouve que le droit du citoyen est bafoué, c'est en termes de droit de propriété. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, notamment en matière de squat, d'impayés, etc., que finalement le squatteur et le locataire a souvent... Alors je ne dis pas qu'il a raison, mais les temps de décision sont tellement longs qu'il finit par avoir raison. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en matière de droit de propriété, on devrait être beaucoup plus radical? Et rappeler quand même, puisqu'on parle de la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 1 ou l'article 2 des droits de l'homme expliquant que la propriété est inviolable. Quand on entend aujourd'hui la gauche, on a l'impression que le droit de propriété
on va l'entendre juste
est
après
de
vous,
plus en plus contesté.
On entendra Marine Tondelier. Mais je vous laisse répondre.
Droit de propriété, il est effectivement inviolable. Mais pour revenir à la question du squat, évidemment, ces squats génèrent des situations...
Ah, c'est tout à fait. Pour moi, c'est vraiment insupportable. Mais
je suis d'accord avec vous. Ce sont des situations tout à fait insupportables.
Et ça me conduirait, si j'étais moi-même squatté, à déroger au droit. C'est-à-dire...
Non.
Ah si.
Pas vous, Philippe Charles. Pas ça.
On n'a rien entendu. On n'a rien entendu.
Ça ne sortira pas d'ici.
Exactement. Personne n'écoute.
C'est pas le genre de la maison.
Non, mais alors, Philippe, vous reflétez tout à fait l'opinion de plein de Français.
Mais oui,
bien sûr.
J'ai voulu me mettre dans la peau du Français. Voilà
bien sûr.
Là, en la matière, c'est pas une question de droit ou de justice, puisque il y a une loi assez récente qui a été faite, qui est peut-être pas extraordinaire, mais quand même qui a une belle amélioration, puisque le juge laisse le pouvoir au préfet. Et dans le cas de squat, lorsque le squat est constaté, la personne qui le subit peut aller trouver le préfet pour une évacuation rapide. Mais le préfet peut dire « Ah, attention, il va y avoir une atteinte à l'ordre public » ou alors, vous comprenez, ça va être beaucoup trop dur pour les squatteurs, donc je n'en vois pas la force.
Mais en fait, c'est ça qui est tout à fait...
Là, on n'est pas dans le droit, on est dans... chez les préfets, et donc au ministère de l'Intérieur.
C'est une décision plus administrative que
c'est une décision administrative, oui.
D'accord. Okay.
Damien Chalamel.
Oui, je voulais rebondir sur les propos du magistrat
L'excellence
Brugère,
Marine Tondelier, après.
Non, Brugère, c'est ça Brugère,
oui, Brugère. Oui, Brugère. Oui. Ouais, Béatrice
alors,
Brugère.
Si je voulais reprendre la distinction faite par notre invité qui parle des grands juges, je dirais que son propos... c'est le propos d'un petit juge, mais pas d'un point de vue péjoratif. J'entends par là d'une justice du quotidien, puisqu'elle est magistrate. Et la grande misère du Royaume de France et de notre République française, elle n'est pas nouvelle. Et pour ceux qui fréquentent les tribunaux justiciables comme praticiens, on la constate et on la déplore. Donc moi, de ce point de vue-là, bien évidemment, comme tout un chacun, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait un budget... de la justice qui soit à la hauteur de la mission. Là, en revanche, où y a une critique très forte à faire, me semble-t-il, c'est celle que porte notre invité, mais là, c'est sur un autre plan, de la dérive des grands juges qui s'arrogent des pouvoirs qui portent atteinte, en définitive, à la souveraineté des peuples. Mais c'est vraiment deux débats différents. Et on peut demander plus de moyens pour les juges sans être un tenant d'une vision totalement faite d'hubris judiciaire de ces juges, que ce soit ceux du Conseil constitutionnel ou ceux de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État. Mais malheureusement, ça, même si on le déplore et que ce discours est de plus en plus entendu, la semaine dernière on avait l'excellent Guilain Bénessa, qui portait aussi un débat proche de celui, dans les termes proches de celui de notre invité, malheureusement, on constate que rien n'y fait. Quoi, hein. Oui, c'est...
Ouais.
Alors, voilà. Je voudrais ajouter un point parce que...
François Guéranger.
Cet élargissement du
pouvoir... La revanche des juges.
Cet élargissement du pouvoir, c'est effectivement le fait... du Conseil constitutionnel ou autre, mais ce n'est pas que lui. Le pouvoir politique y a énormément contribué. Il y a une certaine méfiance
à l'égard du peuple.
Ouais. Moi, je me rappelle...
Le pouvoir politique a donné une partie de son pouvoir.
Une énorme partie du pouvoir.
Une énorme partie aux juges. Et pourquoi? Expliquez-nous pourquoi et comment. C'est incroyable. Le plus rapidement possible, parce que malheureusement...
Alors, la meilleure façon, c'est de reprendre le discours de Valéry Giscard d'Estaing du 8 novembre 1977 devant le Conseil constitutionnel, où il se félicitait de ce coup d'état des juges Conseil constitutionnel de 16 juillet 1971, en disant que maintenant, eh bien, la sécurité du peuple serait assurée, la sécurité de la France. Et il estimait que cette façon de faire permettait d'éviter toute dérive technocratique ou parlementaire. Et donc, d'une part, Giscard d'Estaing, dans, parce que ça, c'était son idéologie, une vraie méfiance du peuple, et il a permis d'élargir le pouvoir du Conseil constitutionnel, parce que dans la version d'origine, il n'y avait que 4 personnes qui pouvaient saisir le Conseil. Avec Giscard d'Estaing, il y a eu les députés, 40 députés et sénateurs, et ensuite, avec Nicolas Sarkozy, la réforme de 2008, il y a eu la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à beaucoup de monde de saisir le Conseil constitutionnel. Et ça... c'est une deuxième partie. On parlait d'idéologie. La première, vous l'avez souligné, c'est cette idéologie des droits de l'homme où c'est une personne qui prime la collectivité. Il y a énormément d'exemples. C'est pas la peine d'y revenir, mais on en a beaucoup. Et la deuxième, c'est une méfiance à l'égard du peuple qui pourrait ne pas faire les choses comme on l'entend. Mais il n'y a pas que les Français. Rappelez-vous ce qu'a dit Jean-Claude Juncker, qui disait que il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'est quand même tout dire.
Incroyable, c'est incroyable. C'est
vraiment, voyez, c'est on voit bien ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que les juges, on met l'accent sur les juges, mais ils ne sont pas seuls à avoir...
C'est pas une constitution, c'est une camisole de force.
Un petit peu. Donc, il y a le droit européen, il y a des dirigeants européens et français... Et les juges en ont profité, en quelque sorte. Mais on ne peut pas dire que ce soit qu'eux, hein, certainement pas.
Allez, je voulais qu'on écoute quelqu'un qui a certainement toute votre estime. Les juges sont-ils assez neutres? Écoutez, c'est Marine Tondelier, c'était le 1er avril 2025, mais ce n'était pas du tout une blague.
Quelqu'un du RN se retrouve face à un juge qui est membre de ce syndicat-là.
Mais le syndicat de la magistrature, quand il dit qu'il ne souhaite pas que le RN arrive au pouvoir, c'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice, et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui,
vous pouvez pas dire ça,
quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous, parce que vous menacez ces institutions-là. Donc c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe démocratique que de ne pas vouloir que vous arriviez au pouvoir.
La réponse là-dessus, Laure Lavalette, voilà.
Voilà, quand le syndicat de la magistrature pétitionne contre le Rassemblement national, c'est normal, parce que finalement, il lutte contre le fascisme.
Il défend l'état de droit, quasiment.
Voilà, c'est ça. Donc, évidemment, ça nuit quand même à l'image de neutralité, ce type de déclaration. Là, en l'occurrence, c'était Marine Tondelier, mais elle retraçait les propos du syndicat de la magistrature. Ça lutte évidemment contre l'image de neutralité des juges auprès du grand public, et de manière très forte. Est-ce que c'est un souci?
Alors, deux choses. La première, c'est on parle d'état de droit. J'ai rarement entendu quelqu'un définir ce qu'il entend par état de droit.
Oui, ça c'est vrai.
Vous faites l'effort.
Oui, je me suis posé la question quand même. Je me suis demandé ce que c'était
avec
que l'état de droit.
Un très bon rappel.
Tout le monde donne sa propre définition, c'est extraordinaire.
Oui, bah, celle qui arrange en général. Ouais. Ensuite, aussi, le syndicat de la magistrature. Alors, il y a quand même deux choses. C'est qu'on peut imaginer que le juge qui est adhérent du syndicat de la magistrature, lorsqu'il est en face de son dossier, lorsqu'il est à l'audience, oublie ses convictions. On peut l'imaginer, je n'en sais rien. Ça, c'est le premier point. Mais pour le second point...
C'est une hypothèse.
C'est une hypothèse.
On peut imaginer l'inverse
aussi. Ça serait tout à son honneur.
Il y en a peut-être qui le font.
Mais exactement.
Il y en a qui le font.
Exactement.
Poser la question à des avocats qui ont plaidé pour le Rassemblement national en matière de presse, et qui ne peuvent que se féliciter de certaines décisions qui sont des membres du syndicat des syndicats de la magistrature. Connu.
Bon, alors, pour le reste, lorsque le syndicat de la magistrature s'est prononcé d'une manière qu'on peut qualifier de politique et qu'il a été rappelé à l'ordre par le ministre, eh bien, la CEDH, toujours la CEDH, a rendu un avis expliquant qu'il était normal et même du devoir d'un syndicat de magistrats de donner son avis si il estimait qu'il y avait un danger pour la justice. C'est la CEDH.
C'est la CEDH. Alors, est-ce que... toujours dans la solution, hein, et qu'est-ce que, en dehors du référendum, est-ce que la revanche est en marche? Est-ce que... vous parlez beaucoup de l'individualisme, du tout à l'ego, hein, qui sont poussés par les droits de l'homme, les droits universels, etc. Est-ce qu'ils sont les nouveaux guérisseurs des maux de l'homme postmoderne? Est-ce que l'assurance d'une égalité totale, finalement, ne lutte pas un peu contre le système aujourd'hui?
Là, on entre plus dans la sociologie et la psychologie. Le fait que l'individualisme se soit transformé soit devenu presque pathologique, à la limite, que chacun ait besoin de satisfaire ses désirs par le juge, c'est une constatation que l'on voit assez nettement, mais qui est mise en lumière, notamment, je reviens, par la CEDH. Mmh. Un exemple, la France, le Danemark, la Suisse ont voulu renvoyer chez eux des trafiquants de cocaïne dangereux. Et la CEDH leur a dit, mais attention, il faut que vous vérifiez que dans les pays où ils vont revenir, ils ne soient pas maltraités. Sinon, il faut les garder chez vous.
C'est ça.
Ça, c'est de l'individualisme.
Tous les jours, on est confronté à des aberrations. Oui,
j'ai beaucoup aimé l'exemple du mari qui torturait sa femme.
Ah oui, alors, ça c'est une histoire. Alors oui, bah, on peut la rappeler si vous voulez.
Sûr.
On peut la rappeler. Voilà. Ça se passe. C'est une histoire belge, si vous voulez. Enfin, ça se passe en Belgique. Et c'est un mari qui est médecin. Et il a un ami qui est magistrat d'ailleurs. Et puis la femme du médecin. Et aime bien être maltraité. Puis, il y a des séances qui sont filmées. Quelquefois, il y a des gens qui sont invités pour voir. Et alors, j'ai la description des sévices. Je n'ai pas osé les mettre. C'est épouvantable. Mais il est arrivé un moment où... parce que chaque fois, il disait à la fin, est-ce qu'on peut continuer? Alors, chaque fois, il disait oui. Puis à un moment, elle a dit non. Mais ils ont continué quand même. Et heureusement, les voisins se sont alarmés, ont fait venir la police. La police a arrêté tout ça. Bon, je passe sur tout le processus judiciaire. Et la CEDH a dit la chose suivante. Eh bien, écoutez, en substance, vous avez le droit de torturer votre femme si elle est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas la torturer.
C'est quand même...
Où est la dignité humaine, là? Alors, on parle beaucoup de la dignité de l'homme, la dignité humaine. Bon, est-ce que ça entre dans cette catégorie? Je ne sais pas.
Ça rend fou, en tout cas. Hein, ça rend fou. En tout cas,
vous avez fourni un bon sujet de conversation avec nos épouses respectives. Voilà. Pour la
soirée. Non, mais les dérives de l'individualisme, effectivement, poussé à la torture, c'est compliqué. À l'extrême, on voit un exemple.
Il y a eu énormément de réactions. Je me souviens de cette affaire. Il y a eu énormément de réactions. Beaucoup de gens qui ont dit, moi, c'est terminé, la CEDH... Je ne veux plus l'écouter. Enfin, ça a été très contesté.
On peut entendre le propos de l'individu. Moi, je pense à l'arrêt Morsan-sur-Orge. Vous savez, c'est cet arrêt qui
dit que
du Conseil d'État,
le lancer de nain,
le lancer de nain. C'était une pratique qui se voulait drôlatique d'un monsieur atteint de nanisme, qui se prêtait à un jeu consistant à le lancer. Dans des conditions de sécurité bien évidemment maximales. Et cette pratique a été interdite en dépit du fait que
lui, ça lui plaisait.
Et en plus, c'était une source de revenus non négligeable pour lui et d'utilité sociale. Le Conseil d'État lui a répondu que ça constituait une atteinte à la dignité humaine.
D'accord.
Donc, vous voyez,
ce qu'il aurait pu dire en l'occurrence, là.
Exactement. Mais la CEDH, non. La CEDH ne considère pas la dignité humaine.
Il y a un sujet sur la CEDH qui pourrait nous occuper un moment. On va terminer avec cette citation d'un auditeur. « Nous vivons sous une république qui s'est élevée sur un bain de sang », dit-il. Ce qui est vrai. Mais le peuple est de moins en moins dupe, car ce sont les bourgeois et les hommes de loi qui ont fait cette révolution française sanguinaire. Alors pourquoi continuer à parler en notre nom, sachant qu'il n'y a aucune représentation réelle du peuple de France, sauf par délégation de pouvoir, c'est-à-dire... par le don de notre carte bancaire, nos codes secrets, dit-il, à des personnes que l'on ne connaît pas.
Bon.
Non, mais ça montre quand même les réactions très fortes et très vigoureuses face à la justice. Le peuple de France ne se sent pas représenté par la justice aujourd'hui. Quand on a les décisions laxistes, etc., ça fait scandale sur les réseaux sociaux de manière tous les jours. Donc est-ce que il n'y a quand même pas un risque au bout d'un moment de...
Je reviens fasse sécession. À ma solution technocratique.
Oui, qui... le référendum.
Le fichier des décisions, et puis qui caractérise la réponse pénale. Et à ce moment-là, on dira, oui, c'est laxiste. Il y a quand même une chose. Ouais. Je crois que ce que vous dites à l'instant, mais ce que vous dites à l'instant est tout à fait important, parce que une justice est faite pour, est rendue au nom du peuple français. Donc, du peuple d'une manière générale. Donc, il faut que le peuple soit content de sa justice.
Ce qui fait qu'il la comprenne, en tout cas.
Il faut qu'il la comprenne et qu'il soit content d'elle. Mmh. Et s'il y a un trop grand divorce entre la justice elle-même et ce que pensent les citoyens, il y a un vrai problème. Mmh. Et pour l'apprécier, c'était ma solution, apprécier la réponse pénale.
François Guéranger, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes magistrat, avocat à la Cour. Vous avez écrit un livre passionnant, La Revanche des Juges, histoire d'une reconquête, qui paraît chez l'Artilleur et qu'il faut lire. Il y a toute une perspective historique et puis en même temps l'analyse des tous ces soucis qui traitent de la justice et qui sont vraiment très prégnants en ce moment. On sent qu'il y a besoin de secouer ce prunier-là, celui-là aussi. Merci infiniment, merci. François Guéranger. Merci. Vous reviendrez, j'espère. Merci. Allez, à suivre tout à l'heure. Nous aurons notre clin d'œil culture. Mais avant, Mélenchon président, l'hypothèse est-elle folle ou est-ce un risque réel?
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Ce n'est qu'un sondage et il reste un an avant que les Français ne soient invités à aller aux urnes pour choisir celui qui présidera aux destinées de la France après le désastre Macron. Mais ce sondage des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle 2027, publié le 26 mai par Odoxa, est riche d'enseignements et de menaces. Si Jordan Bardella occupe solidement la tête des intentions de vote, avec 32% des sondés prêts à voter pour lui, Édouard Philippe ne devance Jean-Luc Mélenchon que d'un tout petit point à 17% contre 16% pour Jean-Luc Mélenchon. Ces trois candidats se détachent du peloton, loin devant Raphaël Glucksmann, 11%, devant Bruno Retailleau, 9%, ou Éric Zemmour, 6%, d'où la question « Mélenchon président, hypothèse folle ou risque réel ?» Le magazine Marianne titre d'ailleurs son enquête cette semaine « Pourquoi Mélenchon peut gagner ?» Réaction de Robert Ménard, atterré par les 16% d'intention de vote au premier tour en faveur de Mélenchon. C'était jeudi, il était interviewé par Apolline de Malherbe sur BFM TV.
En fait, bizarrement, en France, et c'est d'ailleurs un drame pour nous, la justice a plutôt été affaiblie.
On est amnésique, madame. Ce peuple est amnésique. Vous voulez que je vous fasse la liste de tout ce qu'on peut lui reprocher? Je parle les plaisanteries, les jeux de mots antisémites.
Ou alors,
parce que c'était
ou alors est-ce
ça.
L'inverse? C'est-à-dire mais que vous le lui reprochez et peut-être
c'est exactement
que pour ces 16% sondés, c'est au contraire des
Apolline, c'est
d'armes.
Exactement ce que je crains. Ce que je crains, c'est que nous qui pensons que tous ces propos sont tellement monstrueux, tellement fou furieux que ça ne peut que lui desservir, peut-être qu'on se trompe et que ce qu'il dit, le tout blanc, tout moche, rien sur le... Sur le
pour vous, c'est une forme de racisme inversé?
Ah mais ils sont obsédés par la race. Mais vous les entendez, ils ne parlent que de ça. Et c'est parce que c'est leur fonds de commerce. À la France insoumise, ils estiment qu'il y a des voix glanées auprès de nos concitoyens qui sont noirs, arabes ou que sais-je encore, et que là, si tu dis des choses comme ça, qui je suppose nous choquent tous ici, non.
Mais Robert Ménard, c'est fait pas pour vous taquiner que je dis ça, mais il y a de très nombreux Français qui doivent être atterrés aussi.
Voilà, c'était Robert Ménard, vous l'avez reconnu, son intonation inimitable. C'était donc ce jeudi, il était interviewé par Apolline de Malherbe sur BFM TV, donc Mélenchon, qui semble tout faire pour indigner les Français. Hein. Ça marche, hein, puisque Mélenchon semble aux portes des présidentielles. Philippe Charlez, vous avez, je crois, compilé un certain nombre de sondages avec l'aide du cercle Le Millénaire.
Oui, c'est ça. Alors, Le Millénaire est spécialiste dans ce qu'on appelle l'analyse électorale. Mmh. Et donc, il a notamment publié récemment « Pourquoi Mélenchon a-t-il de grandes chances, un, d'arriver au second tour, et deuxièmement, de regarder ce qui peut se passer au deuxième tour. Mmh. » Alors, en fait, il y a quatre grands arguments pour dire qu'il pourrait arriver au second tour. Le premier, c'est qu'il monte systématiquement quand il entre en campagne électorale, notamment en surmobilisant les quartiers populaires, les inactifs et les chômeurs.
Effectivement. Deuxièmement, donc, il a un potentiel de croissance.
Donc, il a un potentiel de croissance. Deuxièmement, il profite de la faiblesse de la gauche sociale-démocrate. Cette gauche sociale-démocrate qui valait à peu près 30%. Rappelez les deux dernières présidentielles. Hein, Hamon avait fait 6% et Hidalgo avait fait 1,5%. Donc, ce qui veut dire que globalement, tout se draine vers Mélenchon. Troisièmement, il profite aussi d'un socle commun divisé, 2 à 3 candidats, qui décourage le centre à venir voter et puis disperse les voix et donc le fait passer au-delà des 15, 16, 17% nécessaires.
Beaucoup de monde au
centre. Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a à peu près 500 000 nouveaux votants potentiels par an, dont la moitié est fait de jeunes et d'immigrés régularisés chaque année qui votent à une écrasante majorité pour la gauche. Donc ça fait quatre arguments qui font que son arrivée au second tour est tout à fait crédible. Et je termine pour le deuxième tour où le millénaire considère que ça serait beaucoup plus serré que prévu, c'est-à-dire entre 55-45 et 51-49 pour l'instant en faveur de Bardella, parce que malgré le rejet généralisé de Mélenchon, le Front républicain renaîtra de ses cendres, et ni à gauche, bien sûr, mais ni au centre et même à droite, personne ne dira « je vote pour le Rassemblement national ». Au mieux, il y aura « je vote contre le Rassemblement national », sans dire « je vote Mélenchon », et au mieux, je m'abstiendrai. Et donc, ça veut dire, de dire que selon le millénaire, face à un candidat de la droite ou du centre, le RN est perdant dans toutes les configurations. Il n'a pas les réserves de voix suffisantes pour atteindre les 50%, compte tenu dans ce cas d'un front républicain qui ira de l'extrême gauche à la droite.
Alors, intéressante analyse. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple, je vous donne la parole tout de suite, Gérard Gachet. Mais il y a un sondage qui vient de tomber aujourd'hui. Sondage Harris Interactive M6. Et je vous le donne parce que c'est quand même très intéressant. Et qui considère que le RN l'emporte à tous les coups. Bardella contre Philippe, ça donnerait 54% contre 46% pour Philippe. Bardella contre Attal, 57% Bardella, 43% Attal. Bardella contre Mélenchon, 68% pour Bardella, 32% pour Mélenchon. Et contre Le Pen, les scores sont toujours en faveur de Le Pen, 52, 54, 67, selon qu'elle est opposée à Philippe, à Attal ou Mélenchon.
Voilà. C'est là que selon le millénaire, ils affinent en fait la carte électorale de façon beaucoup plus précise, en récupérant des historiques et des sondages, et c'est comme ça qu'ils affinent et qu'ils arrivent à démontrer, notamment qu'au second tour, les écarts sont beaucoup moins importants.
Gérard Gachet, puis Damien Chalamel.
Pour confirmer ce qui vient d'être dit, notre ami Yves-Marie Sevilla, nous a envoyé très gentiment pour l'émission, il vient de nous envoyer tout à l'heure, lui aussi, une compilation d'un certain nombre de sondages qui ont été effectués et qui montrent que par rapport aux campagnes précédente, que les intentions de vote pour Mélenchon sont, au jour d'aujourd'hui, un an avant, enfin
bien
un peu moins d'un an avant, sont bien supérieures
à
ce qu'elles étaient les fois précédentes, puisqu'elles se situeraient aux alentours de 15% aujourd'hui, alors qu'elles étaient entre 10 et 12% les campagnes précédentes.
Et donc, il a fait 22.
Il démarrait il part plus haut. De plus haut.
Mais il a effectivement... Alors moi, je ne crois pas à sa victoire finale, mais sa présence au second tour, en tout cas, me semble une hypothèse extrêmement fiable. D'une part parce qu'il a une stratégie, on la connaît, c'est la stratégie Terra Nova qui a été définie depuis longtemps, c'est-à-dire de remplacer le prolétariat traditionnel français, la classe ouvrière,
par
l'immigration, et par l'immigration même arabo-musulmane, et Dieu sait qu'il a travaillé cet électorat et qu'il continue à le travailler tous les jours, et avec un certain nombre de succès, on l'a vu au moment notamment des municipales. Donc ça, il a une stratégie, il a un vrai talent de trimain, il a l'expérience des campagnes, donc il a beaucoup d'atouts pour lui. En plus, il a une chance également, c'est que entre le Rassemblement National et lui, il y a quasiment plus grand-chose, puisque le bloc central peine à se trouver un candidat, ou alors il est très divisé. Il y a même des gens, je ne pense pas que M. Retailleau se considère comme appartenant au bloc central, donc il y a quand même des tas de variantes.
Mais refuse toute alliance avec le Rassemblement
National. C'est un kaléidoscope extraordinaire, le bloc central.
Tout ça fait que je pense qu'effectivement, entre Attal, Philippe, Glucksmann et les autres, Mélenchon peut parfaitement émerger et arriver au second tour. Je ne crois pas à sa victoire finale, parce que je crois que
s'il y a un front républicain,
là, cette fois-ci, il risque de se faire contre lui.
C'est pas aussi évident. Les gens de gauche, comme Glucksmann ou comme Tondelier, disent finalement, oui, il faut voter contre Mélenchon et pour le RN au deuxième tour, ça, j'y crois pas.
C'est probable.
Damien Chalamel, on vous a pas entendu.
Écoutez-moi, non seulement je pense qu'effectivement la présence de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour est tout à fait envisageable, et que s'il était au deuxième tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, je pense que son succès est aussi envisageable. Parce que la grande caractéristique...
Ce que dit Harris Interactive.
Oui, mais moi, c'est ce que je pense. Parce que, de toute façon, tous ces sondages, on sait très bien
qu'est-ce qui vous amène à penser ça.
C'est que Jean-Luc Mélenchon, avant d'être ce tribun de pacotille pour faire frémir l'extrême gauche, c'est avant tout un brave sénateur socialiste, 30 ans au Sénat, dont on n'a jamais entendu parler. Tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une culture de gauche avec ce que ça comprend, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est habitué aux coalitions, qui est habitué au rassemblement au second tour, hein, qui est vraiment animé de cette culture-là, de coalition parlementaire, hein, et que je pense qu'il est tout à fait capable, alors même si on le trouve, bien évidemment, si vous écoutez tous ces seconds couteaux, en particulier Léo Mont, Boyard, Rachel Kékié, Daniel Obono, Deloglou et j'en passe, qui sont autant de boulets, la réalité, c'est que lui, qui est bien évidemment bien plus intelligent que ses petits lieutenants...
Vous oubliez Mathilde Panot.
Mathilde Panot, oui. Mais alors, il y en a que j'aime bien, par ailleurs, mais bon, c'est
Manuel
pas grave. Manuel Bompard, mais je crois qu'il est capable, et j'ai lu cet article de Marianne, et j'en arrête là, qui cite Manuel Bompard, un Clément Beaune, donc là, on est dans le Marais central, hein,
oui.
Il votera Mélenchon face au RN. Il dormira mal la veille, se bouchera le nez, mais il votera Mélenchon. Pareil pour Charles de Courson. Eh bien, je crois que Manuel Bompard a tout ce que c'est juste.
Et en
dernier lieu de mon propos,
exactement
j'ai lu un excellent
Millénaire.
Article, une recension du dernier livre d'un certain Lucas Jakubowicz sur le vote religieux, un tabou français, et qui explique bien qu'effectivement aussi, enfin étonnant ou pas, j'en sais rien, que ça puisse paraître, mais le vote de ces néo-français arabo-musulmans et effectivement, et donc qui est de plus en plus massif, parce que techniquement ils sont de plus en plus nombreux, est largement un vote acquis à la France insoumise. Donc l'hypothèse d'un Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour est, à mon sens, crédible, et sa victoire n'est pas inenvisageable, contrairement à ce que certains peuvent. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà.
Vous êtes assez d'accord avec ce que je disais,
finalement. Oui, tout à fait.
Vous êtes d'accord pour... même pas, j'allais dire pour
je
une fois.
Je suis plus sceptique sur le second tour, mais... Je suis d'accord sur le fait qu'il peut y arriver au second tour sans problème.
Alors ça, atteindre le second tour, donc tout le monde a l'air assez d'accord. Hein, c'est même le plus structuré pour cela, Jean-Luc Mélenchon. Mais après ça, une fois, parlons du second tour, là, cette fois, vraiment, est-ce que vous pensez que les banlieues suffiront et la mobilisation des banlieues peut suffire à faire basculer? Aujourd'hui, il y a des sondages qui sont impressionnants. Je vous recite celui de Harris Interactive, hein, Bardella-Mélenchon, 68-32. Le Pen-Mélenchon, 67-33. On est alors là, pour le coup, il y a quand même de la marge. Est-ce que ce n'est pas une assurance d'élection si jamais Mélenchon arrive au second tour?
Vous avez une
élection pour le RN.
Vous avez un électorat centriste que j'ai bien connu dans la compagnie dans laquelle j'ai fait toute ma carrière, qui a horreur d'une chose, c'est le bordel. Et une de leurs craintes, c'est effectivement...
Le désordre, vous voulez dire.
Oui. Bon, tout le monde m'a compris.
Mais oui.
Et le lendemain, leur crainte, c'est effectivement que le lendemain de l'élection de Bardella ou de Marine Le Pen, ce à quoi on n'échappera pas, la gauche jouera le désordre. Quand on entend le maire de Saint-Denis qui explique que de toute façon, bien évidemment, ils ne reconnaîtront pas le résultat des élections, ça, c'est quand même extraordinaire.
Incroyable.
Et donc ça laisse à penser ce qui pourrait arriver le lendemain dans Paris. Ça vous fait pas peur, Damien Chalamet?
Non, mais si, bien sûr, mais, c'est la grande peur des bien-pensants, comme disait Bernanos, mais c'est
bon. C'est un mauvais calcul, hein, ça, je suis
voilà,
d'accord.
Donc, parce que, est-ce que pour autant, ça allait, dans un deuxième tour, dans une configuration telle que celle qu'on vient d'évoquer, est-ce que ça les conduirait à voter pour autant Mélenchon?
Ben, ou pour au moins à s'abstenir.
Et, ben, voilà, et effectivement, d'un Mélenchon qui se poserait bien évidemment en grand rassembleur. Et absolument. Ceux qui ont vécu, par exemple...
Ah, mais il changera complètement. Il va devenir doux comme un mouton.
Le Mitterrand de 1981, avec son église romane en arrière-plan de la, c'était la, la France... Non, la Force Tranquille.
La Force Tranquille.
La Force Tranquille.
Son petit village.
Était, si vous lisiez les 110 propositions, mais il y avait un hiatus énorme. In fine, c'est, je dirais que c'est l'église romane de Charente qui a fait...
Qui
l'a fait gagner, en quelque sorte.
Oui, alors Mitterrand, il n'y avait pas un rejet de Mitterrand, comme on peut aujourd'hui avoir un rejet de Mélenchon. Mitterrand n'a jamais eu les positions de Mélenchon, quand même.
Non, mais il avait dans son programme, des positions... des positions d'extrême-gauche
et
la perspective d'avoir des communistes au pouvoir qui était, alors que qui là ils ont été en pleine guerre froide
qui était stalinien à l'époque.
Oui, ils étaient communistes tout simplement.
Gérard Gachet, est-ce que à force de considérer à droite que le RN, Bardella, Marine Le Pen ont des tas de défauts, des tas de points avec lesquels on n'est pas d'accord, à force d'insister là-dessus, est-ce qu'on prépare pas finalement une défaite en race campagne une fois que, que Mélenchon aura signé la mobilisation des banlieues?
Honnêtement, je n'en sais rien, mais je n'y crois pas, parce que d'abord, on est 10 mois avant la présidentielle et que beaucoup d'eau va couler sous les ponts d'ici là, beaucoup d'événements vont se passer. La fin de la période d'Emmanuel Macron, comment ça va se terminer?
Le jugement de Marine Le Pen.
Le jugement de Marine Le Pen, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc... à mon avis, c'est toujours, comme d'habitude d'ailleurs, les choses vont se cristalliser à la fin de cette année ou en début janvier. C'est là qu'on va commencer à y voir plus clair sur les chances réelles des uns et des autres. Mais encore une fois, je ne méconnais absolument pas les qualités, entre guillemets, de Jean-Luc Mélenchon et sa faculté d'arriver au second tour. Je ne crois pas à sa victoire finale, mais je peux très bien me tromper. Alors, ça m'est arrivé souvent, rassurez-vous.
Alors, Gérard Gachet, juste un auditeur est assez d'accord avec vous. Il nous dit merci pour votre émission intéressante. Mais Mélenchon, au second tour, je n'y crois pas du tout. Mélenchon, avant le premier tour, nous fera une phrase à la Jean-Marie Le Pen qui lui fera perdre des voix. Je vous donne le score de Mélenchon au premier tour, 8%. Eh bien, écoutez, le ciel vous entende, cher auditeur. Oui. Mais alors, je le souhaite, mais j'ai quand même des doutes.
Je répondrai déjà à notre auditeur que les petites phrases, y compris celles de Jean-Marie Le Pen, n'ont jamais fait gagner ou perdre une élection, de même que les débats télévisuels.
Bah, en l'occurrence, phrases de Mélenchon ne l'ont pas
carbonisé. Oui, mais exactement. En revanche, là où je rejoins Gérard, c'est qu'effectivement, on l'a vu par exemple dans les élections municipales à Saint-Denis, par exemple, c'est que l'électorat de LFI, c'est quand même un électorat qui est très marqué par l'abstentionnisme. On parlait des jeunes, des inactifs, des Français de fraîche date, de branche, pourrait-on dire. Eh bien, ils sont très largement abstentionnistes. Et en fait, par exemple, le maire de Saint-Denis, par exemple, en réalité, il a été élu par un nombre, je ne sais plus quel était le pourcentage de... parmi ces électeurs qui se sont réellement déplacés ce jour-là, c'était assez faible.
Allez, nous arrivons au terme de notre émission. Je voulais juste lire deux points, deux petits mots d'auditeurs.
Et la culture.
Et la culture. La culture va passer à la trappe, je le crains, parce que nous avons peu de temps. Deux petits mots. L'immense scandale de l'affaire Patrick Bruel n'est-il pas lié à sa notoriété, à l'influence qu'il exerçait sur un public totalement dévoué à sa personne? Bien sûr, cet auditeur a raison. Nous parlions de Patrick Bruel en allusion au début de cette émission. Et puis, sur l'ensauvagement des mineurs, n'est-ce pas normal, nous dit un auditeur, lorsqu'on entend dans l'émission Envoyé spécial sur le cas de l'aide sociale à l'enfance, qu'il y aurait les deux tiers des filles de plus de 12 ans qui se prostituerait à l'extérieur de ces établissements. Voilà, prostitution, harcèlement, pédophilie, évidemment, tout cela ne lutte pas contre l'ensauvagement des mineurs. Est-ce qu'on a le temps
Il reste une petite minute trente-deux.
Oui, allez, 20 secondes pour une petite...
Allez, je vous fais rapidement.
Allez, j'ai revu Philippe Charlèze.
Un film assez extraordinaire de 1965.
Les autres, on les garde pour la semaine prochaine.
Il s'appelle L'extase et l'agonie avec Charlton Heston et Rex Harrison. Mmh. Ça rappelle le conflit entre Michel-Ange et le pape Jules II lorsque Michel-Ange peignit la voûte de la chapelle Sixtine.
Magnifique, bravo pour le délai. Jacques Gachet, du
coup, bien très rapidement, oui, d'une femme d'extrême gauche, Fred Vargas, formidable auteur de romans policiers, bien qu'elle soit très très engagée, effectivement, notamment elle avait soutenu le terroriste italien Cesare Battisti.
Jacques Gachet, c'est l'homme qui dit du bien de l'extrême gauche.
Et elle vient de sortir un nouveau roman policier mettant en scène son commissaire, son héros favori, le commissaire Adamsberg, et son équipe. Ça s'appelle « Une unique lueur », c'est paru chez Flammarion, et vous verrez comment un tueur en série peut s'inspirer de la romance entre Lorraine Bacall et Humphrey Bogart, et du sifflet en or offert par Bogart à sa bien-aimée, dormir la nuit.
Vous nous avez donné envie. Restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous dans ce studio, merci à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, vous le savez, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 5 juin, même heure, même adresse. Restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie, avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.